7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Vincent Dublange. Nettoyer, pourquoi pas, mais c'est la manière qui ne passe pas. Reportage à Conakry pour débuter votre journal.
Où les opérations de déguerpissement et de nettoyage touchent plusieurs quartiers, ce qui provoque colère et incompréhension chez les habitants concernés. On va évoquer cette visite prévue de longue date du Premier ministre sénégalais au Maroc aujourd'hui, mais le contexte est particulier alors que la tension post-finale de la CAN a du mal à retomber. En Côte d'Ivoire, le PDCI hausse le ton face à la gestion de la crise dans le secteur du cacao.
Et cela occupe une bonne part de notre antenne aujourd'hui, la bataille de Goma un an après.
Reportage, analyse sur nos applis, dans le journal également, et puis nos invités notamment après cette édition, revue de presse également à suivre. À suivre aussi bien sûr dans le journal international de 7h temps universel, la situation très tendue aux États-Unis alors que les anciens présidents Obama et Clinton prennent la parole. On en parle donc dans une demi-heure.
C'est du tape à l'œil, dit un habitant de Conakry. Les opérations de déguerpissement, d'expulsion et de nettoyage qui font polémique dans la capitale guinéenne.
Plusieurs quartiers sont concernés, Marion, dans le Grand Conakry. Objectif affiché du ministère guinéen de l'urbanisme, rendre la ville plus aérée, la débarrasser des encombrants et de nombreux baraquements sur les trottoirs. Baraquements dont les occupants sont sous le choc, comme nous le montre ce reportage de Mouktarba.
Des gérants de kiosques, de restaurants, de débits de boissons, de boutiques de fortune ont été surpris par l'arrivée des machines de démolition. Ils tentent de sauver ce qui peut l'être. Par endroits, les occupants dévancent les engins qui emportent tout sur leur passage. Amadouba ne comprend pas ce qu'il appelle un acharnement.
Moi, aujourd'hui, là où je suis comme ça, je regrette pourquoi je suis revenu dans ce pays-là. Parce que j'ai fait un peu partout. Tout ce que j'ai cessé, je suis un handicapé. Je suis père de 20 d'enfants. Je suis marié de 4 femmes. Maintenant, aujourd'hui, on me casse les choses comme ça. Je ne sais même pas ce que je vais faire encore ou ce que je vais dire.
Les larmes aux yeux, il interpelle le chef de l'État.
Ce que je vais demander à Mamadi Doumbouya, tout le monde l'a supporté pour qu'il soit élu. Maintenant, c'est la récompense qu'il est en train de nous faire comme ça. Sinon, il ne devait pas donner l'autorisation de casser les choses comme ça devant les gens.
Cette mère de famille se demande de quoi l'avenir sera fait.
Nous avons voté pour Mamadi Doumbouya, mais c'est inutile. Nous n'avons plus de quoi manger. Nous pleurons, nos parents pleurent. Nous regrettons ce qui se passe. Nous sommes ici depuis 20 sans jamais avoir été dérangé. Il y a des veuves qui doivent s'occuper de beaucoup d'enfants. Alors comment allons-nous faire ?
L'opération de nettoyage des rues de Conakry doit se poursuivre et s'étendre à la quasi-totalité des quartiers de la capitale, selon le ministère de l'Aménagement du Territoire. Mouktarba, Conakry, RFI.
Le Maroc contrôle, qu'on se dise la vérité. Propos ce week-end du patron de la Fédération sénégalaise du ballon rond.
Qui viennent remettre en quelque sorte une pièce dans la machine. Contrôle quoi, selon Abdoulaye Faye ? Eh bien, la Confédération africaine de football. Le patron du foot sénégalais qui a déploré lors de cette intervention les conditions dans lesquelles sa sélection a préparé la finale, remportée finalement la finale de la CAN face au Maroc 1-0. Tout cela a créé des tensions qui irriguent jusqu'au plus haut niveau des deux États, dans le sens où le roi du Maroc et les deux premiers ministres aussi se sont exprimés, prises de parole d'apaisement qui se sont multipliées. Et c'est dans ce contexte, je vous le disais, qu'arrive aujourd'hui à Rabat le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. François Imfer Kataji.
Dans un contexte de tension entre les supporters des deux pays et de montée des messages xénophobes et racistes, notamment sur les réseaux sociaux, le premier ministre sénégalais va venir porter au Maroc un message d'apaisement, déjà exprimé publiquement la semaine dernière. Le roi du Maroc a également publié un message dans le même sens en soulignant l'importance de la fraternité interafricaine. La visite s'inscrit dans le cadre de la grande commission mixte entre les deux États, prévue de longue date. Un forum économique se tiendra en parallèle de la rencontre entre les deux chefs de gouvernement. Le cheikh de la Zaouïa Tidjane de Fès, où de nombreux Sénégalais viennent en pèlerinage, a lui rappelé les liens profonds entre les deux pays et a demandé à tous les fidèles à faire preuve de vigilance et de discernement et à ne pas se laisser entraîner par les discours d'extrémisme et de violence. Au-delà de ces appels au calme, Ousmane Sonko pourrait évoquer plus discrètement lors de cette visite la question des 18 supporters sénégalais placés en détention provisoire au Maroc et poursuivis pour des actes de hooliganisme lors de cette finale. Leur procès doit avoir lieu dans les prochains jours. Samedi, les déclarations du joueur sénégalais Ismaël Jacobs ont relancé les commentaires négatifs liés à cette finale. « Je soupçonne que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés », a-t-il indiqué à la presse allemande, tout en reconnaissant qu'ils n'avaient pas toutes les preuves. François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Et lors de la finale de la CAN, il fut l'un des artisans de la victoire. Le taulier Sadio Mané a fait son retour triomphal en Arabie Saoudite. Sofiane Amazian nous raconte tout ça dans le journal des sports dans une heure. Au Niger, pas de bilan officiel à ce stade. Un engin explosif improvisé a explosé hier au passage d'un convoi de l'armée à une vingtaine de kilomètres à la sortie nord de Niamey. Depuis plusieurs jours, les forces de sécurité du Niger sont en état d'alerte.
Nous collaborons toujours avec les armées des juntes au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger. C'est ce qu'affirme le général John Brennan du commandement militaire américain pour l'Afrique.
La situation toutefois est très différente d'il y a 2 ou 3 ans, dit le haut gradé, le général de l'Africom, qui confirme aussi que son pays renforce ses livraisons de matériel militaire et le partage de renseignements avec le Nigeria.
Le Nigeria et l'approche des élections générales dans un an.
Les grandes manœuvres qui continuent. Marion, le président Tinubu débauche des opposants. Le dernier en date, le gouverneur de Kano, Abba Kabir Youssouf, qui quitte le NNPP. C'est l'état de Kano, c'est le deuxième état le plus peuplé du Nigeria et on est donc à un an des élections générales.
RFI Matin, 6h36 à Abidjan. Après l'annonce du gouvernement la semaine dernière pour soulager les planteurs de cacao, la polémique rebondit sur le terrain politique.
Oui, pour rappel, les autorités ivoiriennes ont promis d'acheter 123 000 tonnes de fèves de cacao invendues, mais le PDCI RDA, principal parti d'opposition, dénonce ce qu'il estime être, je cite, un échec de gouvernance dans la filière café-cacao. Binta Diagne nous en dit plus.
Pour le PDCI, les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement traduisent un échec structurel de la filière cacao. Le système de commercialisation est mal conçu, lit-on dans un communiqué de ce parti d'opposition. Le PDCI exprime ses doutes sur la méthode employée. Ce rachat, affirme-t-il, transfère le risque vers le budget public sans transparence et sans plan crédible de transformation locale du cacao. Fin de citation. Cet épisode montre à quel point le système de stabilisation et de vente anticipée permettent de protéger les planteurs de cacao, assurait mardi l'ancien ministre de l'Agriculture. En effet, avant l'ouverture de la campagne principale, le Conseil du Café Cacao a vendu près de 85% de la production estimée, contrairement aux pays voisins qui sont touchés de plein fouet par la baisse des prix sur les cours mondiaux. Ce système préserve également les exportateurs qui bénéficieront d'une compensation de l'État, car les cours mondiaux sont actuellement bas, explique le responsable d'une société. Joint par RFI, plusieurs responsables de coopératives et de syndicats agricoles sont dans l'expectative, car les enlèvements de cacao annoncés n'ont pas encore été faits. Ils espèrent un déblocage avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Ouvrons à présent une page consacrée à la RDC, un an après le début de la bataille de Goma.
Tournant majeur dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, depuis le groupe politico-militaire AFC M23 soutenu par le Rwanda contrôle la plus grande ville de l'est de la RDC. Il s'y est installé. Revenons d'abord sur les circonstances qui ont conduit à cette accélération du conflit avec vous, Patient Ligodi. Cela commence quelques semaines avant.
On est le 15 décembre 2024 à Luanda. L'Angola est tout proche d'arracher un accord entre Kinshasa et Kigali. Les équipes congolaises et rwandaises ont quasiment finalisé le texte, mais un point bloque. Kinshasa refuse catégoriquement de négocier avec l'AFC-M23. Or, Kigali pose cette condition comme préalable à toute signature. À partir de là, la pression militaire s'accentue. Félix Tshisekedi tente alors de mobiliser les pays voisins. Le 21 décembre, il est à Brazzaville, le 22 à Bujumbura. 4 jours plus tard, le président congolais change le commandement de la 3e zone de défense. Pendant ces temps, l'AFC-M23 avance. Le 3 janvier, les groupes prennent Katale. Le 4, Massissi Centre tombe. On est alors à 80 km de Goma. Et le 7 janvier, des affrontements sont signalés autour de Sake, à environ 30 km de Goma. Les fronts se multiplient. À Massissi, au sud de Lubero, à Rutshuru et à Nyiragongo, les combats sont intenses. Puis, tout s'accélère. Autour de Sake, les affrontements redoublent. Le général Peter Thierry Mwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, meurt de ses blessures. Il avait été touché le 23 janvier sur la ligne de front. Et le 25 janvier, les combats atteignent les abords immédiats de Goma. 13 soldats de la SADC sont tués et les FARDC reculent. Et à Goma, plus de 900 corps ont été enterrés par la Croix-Rouge et le CICR.
Merci Patient Ligaudy. Ce conflit qui provoque d'importants mouvements de population, c'était le cas forcément il y a un an quand les combats ont atteint l'immense ville de Goma. Notre correspondante à Kinshasa a pu joindre ou rencontrer deux déplacés internes, l'un qui vit dans la capitale nationale, l'autre qui est toujours dans l'est du Congo mais bien plus au sud que Goma, à Kalemie, le long du lac Tanganyika, témoignage.
Pour moi, c'était de l'angoisse. Tu pars et vous avez peur. Vous laissez les autres. Je ne sais pas comment expliquer le traumatisme qu'on a vécu, madame.
Espoir a quitté Goma peu après la chute de la ville. En janvier dernier, à la fin d'un long voyage, il est arrivé à Kinshasa. Même parcours chaotique pour Christian, qui, lui, a trouvé refuge dans un camp de déplacés au Tanganyika.
Nous sommes arrivés ici au Tanganyika depuis le mois de février. Nous avons reçu un petit soutien, oui, des pommes. Et ACR nous a doté seulement avec le bâche.
Christian vit sous une tente, espoir chez des amis.
Nous n'avons pas de moyens, nous ne vivons qu'à la merci de la famille qui nous avait accueillis. D'ailleurs, pour moi, j'ai eu quelqu'un pour me recevoir, mais il y a des autres, il y a d'autres qui ont été chassés dans les familles d'accueil. Ce n'est pas une vie facile, donc nous vivons-t-on et nous assumons ça.
Des conditions difficiles pour tous ces déplacés, déracinés et pour beaucoup séparés de leur famille.
Il faut comprendre que beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent séparées. Ça à leur propre volonté. Il y a des étudiants qui sont venus de Goma ici pour étudier ici. Aujourd'hui, qui ne parviennent plus à se rencontrer avec leur famille. L'aéroport de Goma, c'était l'unique lien qui nous permettait, nous, de Goma et ceux de Kinshasa, d'être en contact à tout moment. Mais le fait que l'aéroport n'est plus fonctionnel, comprenez donc que beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent détachées et ce qui cause également quelques impacts psychologiques.
Tous les deux n'ont qu'un souhait, le retour de la paix, synonyme de retour à Goma pour espoir, alors que Christian se voit plutôt commencer un nouveau chapitre de sa vie à Kalemie. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et l'on revient en détail sur Radio France Internationale sur la bataille de Goma, le discours quelque peu infléchi de Kigali ces derniers jours, analysé par la presse africaine. Frédéric Couteau vient nous en parler, il y a nos invités aussi à lire sur l'appli RFI, à écouter sur l'appli de podcast RFI Pure Radio. L'une des représentantes de l'ONU qui était sur place à l'époque, Viviane Vande de Peyre, elle s'est confiée à Patient Ligaudy. Puis dans 5 minutes, nous sommes avec Zobel Béalal, ancien expert de l'ONU sur le Congo. Il évoque avec Florence Maurice notamment le système de taxation et l'administration d'un M23, je cite, massivement soutenu par le Rwanda. Marion Kazanov, c'est à vous pour la suite des RFI Matin.
Et c'était le journal de Vincent Dublange. À tout à l'heure, Vincent. 7h42 à Paris, 6h42 en temps universel. Un an après la bataille de Goma, matinée spéciale sur RFI consacrée à la situation dans la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Un an plus tard donc, quelle est la réalité du contrôle de la FCM23 sur place? Comment le groupe se finance-t-il? Et quelle perspective de paix alors que les initiatives diplomatiques qui se multiplient n'ont que peu d'effet sur le terrain? Pour en parler, RFI reçoit Zobel Béalal, expert senior à la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, c'est-à-dire l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational. Il a aussi été membre du panel d'experts des Nations Unies sur la RDC et il répond aux questions de Florence Maurice.
Bonjour Zobel Béalal.
Bonjour.
Il y a un an, lors de la chute de Goma, beaucoup d'analystes affirmaient que le M23 n'avait pas les moyens de gouverner la ville. Un an plus tard, est-ce qu'on s'était trompé ?
Oui, évidemment, on s'était trompé il y a un an parce qu'aujourd'hui, le mouvement non seulement contrôle la ville, mais il a étendu son pouvoir sur d'autres territoires et notamment sur la province du Sud Kivu.
De quelle manière est-ce qu'il contrôle la ville concrètement ?
Le M23, toujours soutenu massivement par le Rwanda, a installé une administration parallèle avec des gouverneurs qui ont été nommés dans les provinces du Sud et du Nord Kivu, des administrateurs des territoires. Il a installé un système de taxation assez bien huilé. Le M23 contrôle également des territoires stratégiques de production minière qui sont une source d'enrichissement assez considérable pour lui. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que le M23 contrôle 5 postes frontaliers stratégiques, notamment avec le Rwanda et l'Ouganda.
Comment est-ce que le M23 finance cette administration parallèle, essentiellement par ses taxes et le contrôle des ressources minières ?
On a vu une nomenclature des taxes assez bien élaborée par le mouvement, qui concerne aussi bien le mariage, le transfert d'un corps, la traversée d'une frontière, l'exploitation d'un site minier. Donc ça couvre vraiment toute l'activité économique et sociale des territoires sous son contrôle et qui rapporte énormément d'argent au mouvement. Alors, il faut aussi comprendre que le M23 ne dépense pas beaucoup d'argent pour ses troupes. Les soldats, pour la plupart, sont très peu payés. Ils reçoivent un entretien journalier pour leur nutrition. Donc, ceux-ci se sucrent sur le dos de la population eux-mêmes et l'essentiel de l'argent collecté par le M23 va dans les poches de ces cadres politiques et militaires.
Alors justement, avant la chute de Goma, déjà le M23 contrôlait d'importants sites miniers. Hein, c'était le cas par exemple de Roubaïa. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Est-ce qu'ils ont mis la main sur de nouveaux sites stratégiques?
Depuis la chute de Goma, le M23 a étendu son contrôle sur des sites miniers, notamment dans la province du Sud Kivu. Des sites miniers de production d'or et de ce qu'on appelle la wolframite, qui constituent des sources de revenus importantes pour le mouvement et a continué à maintenir son contrôle sur les routes d'exportation des minerais de coltan exploités à Roubaïa vers le Rwanda. Donc, tout cet argent rentre dans les caisses du mouvement, mais profite surtout au cadre politique, au cadre militaire et évidemment aux pays qui soutiennent le M23.
Qui sont les pays qui bénéficient de ces ressources?
On a suffisamment d'informations et de preuves pour attester du soutien massif du Rwanda vis-à-vis du M23. Et on sait que ce soutien rapporte énormément d'argent au Rwanda. Alors, les statistiques du Rwanda d'exportation du coltan sur la période de janvier à juin 2025 sont 200% supérieurs à ce que c'était à la même période en 2024. Et on sait aussi qu'il y a des pays qui profitent de manière passive de la présence du M23, notamment les flux commerciaux et économiques entre le M23 et entre le Congo et l'Ouganda. Et il y a également des pays un peu plus lointains comme le Kenya, la Tanzanie. Prenons un exemple, c'est celui du commerce du carburant. Aujourd'hui, à Goma, le carburant est sous le contrôle des proches du général Makenga, qui est le chef militaire du M23. Et ses proches ont un monopole sur l'importation du carburant qui vient des pays comme du Kenya. Donc, ça enrichit des réseaux qui, de manière passive ou indirecte, contribuent à financer le mouvement et profitent également de cette économie illicite.
Depuis un an, les initiatives diplomatiques se multiplient, mais on a le sentiment qu'elles ont peu d'effet sur le terrain. Pour quelles raisons, selon vous?
Il y a eu une forte mobilisation diplomatique qui est appréciable. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un élément qui structure cette guerre, il y a un élément qui constitue son carburant, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Donc l'angle mort des principaux processus de paix, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment en compte cet aspect, qui pourtant représente un moyen de pression sur les différents acteurs pour les obliger à se mettre autour de la table pour discuter.
Mais le processus de Washington et l'accord cadre qui a été signé en fin d'année dernière aux États-Unis prétend justement placer cette dimension économique et l'organisation économique régionale au cœur des discussions.
Autant on se félicite du fait que les Américains aient mis sur la table cette dimension économique, autant on reste encore sur notre faim, sur les mesures concrètes qui vont véritablement résoudre le problème dans sa profondeur. On a plutôt l'impression que ce processus pourrait représenter une prime à l'ambition expansionniste de certaines parties. Il pourrait représenter une source d'enrichissement des réseaux criminels préexistants. Donc il faut commencer par créer des conditions pour que ces personnes n'accèdent plus à ces ressources naturelles. Et c'est l'angle mort, comme je disais, de ces processus de paix.
Donc le M23?
Le M23, les pays voisins comme le Rwanda, et reconnaître aussi qu'aujourd'hui, dans l'exploitation illicite des ressources naturelles, les réseaux criminels se recrutent au sein de l'élite politique sécuritaire de tous les pays, y compris du Congo. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui que ces élites au Congo, au Rwanda et dans les autres pays, ne continueront pas à tirer les ficelles lorsque ces contrats seront appliqués.
Alors tout récemment, l'Angola, qui semblait sortie des processus de négociation, a relancé des consultations et plaide pour un dialogue national. Est-ce que cette nouvelle initiative de Luanda est porteuse d'espoir selon vous?
L'initiative angolaise est potentiellement une évolution positive, car si la crise du M23 s'inscrit dans une dynamique géocriminelle où des États instrumentalisent le crime transnational organisé à des fins économiques et financières. Il faut reconnaître que cette crise prospère aussi parce qu'elle s'ancre dans des faiblesses structurelles profondes que seuls les Congolais eux-mêmes ont la capacité et le devoir de traiter. Donc, un dialogue inter-congolais qui va discuter du partage des richesses, de la forme de l'État, de comment faire nation, de la lutte contre l'impunité, me semble bienvenu.
Merci Zobel Béalal.
Zobel Béalal, expert senior au GITOC, l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational, ancien membre du panel d'experts des Nations Unies sur la RDC. Il répondait aux questions de Florence Maurice. Et on continue de parler de la bataille de Goma dans votre revue de presse. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Un an après cette bataille dans l'est de la RDC et les avancées de l'AFCM-23 soutenues par Kigali, et après des mois de surplace diplomatique, le Rwanda infléchit son discours.
Oui, l'année 2025 avait très mal débuté pour la RDC, relate Jonathan. Fin janvier, Goma, ville stratégique et chef-lieu de la province du Nord Kivu, était prise par la FCM-23. À la mi-février, c'est Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, qui tombait. Et cette année 2025 s'est achevée de la pire des manières avec la chute d'Uvira le 10 décembre, quelques jours seulement après la signature à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Un revers pour Donald Trump, qui s'était largement auto-congratulé d'avoir rétabli la paix dans la région. D'ailleurs, sur le front diplomatique poursuit Jeune Afrique, cette année 2025 avait d'abord fait naître plusieurs espoirs. Trois processus de paix se sont succédés, se chevauchant parfois, ceux de Luanda, de Doha et de Washington. Tous ont en commun d'avoir pour l'instant échoué. Alors les avancées des troupes de la FCM-23 dans l'est de la RDC n'auraient pas été possibles sans le soutien actif du Rwanda, un soutien prouvé et documenté depuis des années et des années par des dizaines de rapports onusiens.
Et jeudi dernier, surprise, l'ambassadrice du Rwanda à Washington, Mathilde Mukantabana, publie sur le site de l'ambassade un document dans lequel elle reconnaît implicitement l'engagement du Rwanda auprès de la FCM-23.
Avec notamment cette phrase, le Rwanda participe effectivement à une coordination sécuritaire avec la FCM-23. Commentaire du site d'information afrique.com. L'expression est suffisamment floue pour laisser place à des marges d'interprétation, mais suffisamment explicite aussi pour engager une responsabilité politique. Elle peut inclure des échanges de renseignements, une synchronisation tactique sur le terrain, un appui logistique direct, voire une coordination opérationnelle. Dans tous les cas, poursuit afrique.com, il s'agit d'une interaction structurée avec un acteur armé non étatique opérant sur le territoire d'un État souverain. Cela pose un problème fondamental au regard du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Afrique.com de s'interroger à travers ce document, Kigali pense recréer un climat de confiance, mais avec qui ? Les États-Unis, le M23 ou bien la communauté internationale ? Ce tournant constitue-t-il une tentative de reprise du contrôle du récit international ? Plutôt que de subir des révélations successives, le Rwanda chercherait ainsi à encadrer son implication en la justifiant par des impératifs sécuritaires. Cette forme d'admission assumée, mais suffira-t-elle à infléchir la courbe du récit ? Rien n'est moins sûr.
Pourquoi ce changement de pied et pourquoi aujourd'hui s'interroge le site spécialisé sur la RDC Afrique Arabia ?
Depuis l'arrivée du médiateur américain dans le conflit congolais, Kigali, sous le flot des critiques, marche sur des œufs. Dos au mur, le Rwanda cherche à proposer un nouveau récit dans la transparence de ses combats à l'est de la RDC. Kigali tente ainsi d'imposer au grand jour une stratégie de légitime défense préventive, mais les arguments avancés sont connus depuis bien longtemps. Menaces des FDLR, persécution des Tutsis congolais, risque d'infiltration transfrontalière. Et Afrique Arabia de s'interroger encore. Ce nouveau discours de transparence et de confiance présenté par l'ambassadrice rwandaise fera-t-il mouche ? Et surtout, n'arrive-t-il pas trop tard, après des années de déni ? Il n'est pas sûr que ce nouveau narratif tempère les positions de Washington. La sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, Sarah Troutman, a été très claire récemment devant la Chambre des représentants. Ceux qui menacent la paix, a-t-elle dit, seront tenus pour responsables, à bon entendeur.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine RFI, 6h54 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
Dans l'actualité ce lundi 26 janvier, les hommages à Alex Pretty aux États-Unis. Cet infirmier de 37 ans a été tué samedi à Minneapolis par la police de l'immigration, moins de 3 semaines après la mort de René Good. Donald Trump sur Truth Social hier a affirmé que la mort de ces deux Américains était la conséquence du chaos provoqué par les démocrates. On reparle des événements de Minneapolis dans une vingtaine de minutes avec notre invité, le chercheur Julien Toureille. Aux États-Unis, où les deux tiers du pays subissent une une importante tempête de neige, de grésil, de pluie verglaçante, avec des températures inhabituellement basses. La tempête est liée à une déformation du vortex polaire qui s'est étiré vers le sud. Plus d'un million de foyers étaient privés d'électricité. Plus de 10 000 vols ont été annulés hier. Le froid devrait durer toute la semaine, en particulier dans certaines régions du centre où les températures pourraient atteindre moins 45 degrés. En Syrie, l'armée et les Kurdes se sont mutuellement accusés de violation de la trêve à Kobané. Plus tôt dans la journée, l'armée avait annoncé ouvrir deux corridors afin de permettre l'entrée de l'aide, l'un vers Kobané et l'autre dans la province voisine de Hasaké, région dans laquelle l'armée syrienne s'est largement déployée. Israël annonce une réouverture limitée du poste frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, prévue par l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Aucune date n'est précisée pour cette réouverture. Le Hamas, lui, doit notamment encore rendre la dépouille d'un otage israélien dans cette deuxième phase du plan de paix de Donald Trump. Et puis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Antonio Costa, le président du Conseil européen, sont en Inde. Ils sont les invités d'honneur aujourd'hui des cérémonies du jour de la République, fête nationale qui marque l'entrée en vigueur de la Constitution en Inde. On en parlait dans la Fabrique du Monde tout à l'heure avec Guillaume Nodin. Chronique à réécouter sur notre site ou sur nos applications. On vous retrouve, Maman, pour votre chronique quotidienne. Et vous nous dites que de nos jours, Maman, les policiers ne sont plus appelés gardiens de la paix.
Oui, comme disait Bob Dylan, un petit gars du siècle dernier qui chantait avec sa guitare et son harmonica « The times, they are changing ». Les temps changent, l'eau coule sous les ponts, les voitures passent sur la route. Autrefois, jadis, aux temps anciens, les membres de la maréchaussée étaient connus sous la glorieuse appellation « gardiens de la paix ». Avec leur matraque et leur panier à salade, ils avaient pour mission de garder la paix, de l'empêcher de s'enfuir des rues de Gondwana City, notre belle capitale. Les rues étaient ainsi paisibles, la paix régnait sur les trottoirs et dans les foyers. La paix pouvait se balader tranquille comme Baptiste, en sifflotant d'une rue à l'autre, de maison à maison, du bureau au grand marché, du stade à l'aéroport. Bref, la paix était en paix. Les gardiens de la paix étaient payés par l'État pour garder la paix dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, comme on garde des lingots d'or dans un coffre-fort. Parce qu'il y a toujours des gredins qui rôdent aux alentours pour venir s'en prendre à la paix, la violenter, la kidnapper ou la faire fuir. Il fallait donc, coûte que coûte, bien garder la paix. Mais les gredins et les marlous ont fini par arriver à leur fin. Ils ont menacé, maltraité, agressé la paix. La pauvre a regardé à gauche et à droite, personne ne venant à son secours. Eh bien, elle a fini par prendre ses jambes à son cou pour s'échapper et fuir loin, très très loin de Gondwana City, notre belle capitale, qui est devenue un vrai coupe-gorge pour la paix. Mais du coup, les gardiens de la paix se sont retrouvés gros gens comme devant, dépourvus quand la bise fut venue, plus de paix à garder, plus de balades matraques à la main, fini l'insouciance des gens sifflotant dans les rues, fini l'insouciance et l'innocence rutilante des commerces, la course festive des voitures et des passants. Et comme les absents ont toujours tort, comme la paix est partie à la chasse pour éviter qu'elle perde sa place au profit du désordre, eh bien, président fondateur a décidé que désormais, les gardiens de la paix deviennent les forces de l'ordre. Eh oui, à défaut de paix, ben on aura l'ordre. Et l'ordre régnera au Gondwana grâce aux forces de l'ordre. Fini matraque et panier à salade, vive tonfa, flashball, LBD, bouclier anti-émeute, bâton de défense, grenade de désencerclement, pistolet, fusil d'assaut eu de précision. Il y a trop de gens désordonnés dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale. Eh bien, on va les ramener à l'ordre avec force et rigueur de la loi. Partout au Gondwana, il n'y a plus de gardiens de la paix, puisque la paix a fui. Les seuls gardiens qu'on voit partout, ben c'est des gardiens devant les grosses villas, les banques, les centres commerciaux, les stades, et surtout, et c'est les plus nombreux, les gardiens de prison. À demain.
À demain, Maman. Cette chronique était une rediffusion. À suivre sur RFI dans un peu plus d'une minute, le journal de Jeanne Bartoli.
Quelle distance vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie? 30 000 ou 5 000 kilomètres? Quelle distance vous sépare des dizaines de journalistes agressés en Serbie alors qu'ils couvraient des manifestations anti-gouvernement? 10 000 ou 2 000 kilomètres? Quelle distance vous sépare des campagnes de désinformation sur votre téléphone? 0 cm. En 40 ans, la menace contre l'information n'a jamais été aussi proche de vous. Aidez-nous à défendre l'information fiable. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières. Se battre pour les faits.
tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Faire parler Henri IV, roi de France et de Navarre, assassiné en 1610. Une illusion ? Non. Grâce à la tête momifiée du roi et particulièrement bien conservée, l'archéologue Philippe Charlier a réussi à reconstituer la voix de cet illustre défunt, vous l'entendrez.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet Actu de votre application, abonnez-vous à notre